Gloire à Dieu. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on est rassemblés. Puis je te remercie de ce que tu es déjà en train de faire au milieu de nous, à travers la louange, puis la présence de ton esprit, puis aussi à travers ce que tu vas faire, à travers la parole, Seigneur. Je te remercie pour la Bible que tu nous as laissée, la parole de Dieu, tout ce qu'on a comme instruction, révélation là-dedans, pour nous édifier, nous fortifier, pour nous donner le pas, pour nous guider dans notre marche, puis qu'on voit, qu'on discerne les choses qui t'appartiennent, puis les choses qui t'appartiennent pas. Fait qu'on remet nos ventres entre tes mains, on te laisse agir pleinement à travers de nous, Seigneur, ce matin. Puis change nos cœurs, change nos vies, grave ta parole afin qu'on base notre vie sur les révélations de ta parole. On remet nos ventres entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On continue la suite de la semaine passée qui était encore sur la série « Discerner nos ennemis ». Puis l'ennemi qu'on a commencé à parler la semaine passée, c'est sur Satan et ses démons. C'est une réalité que même si on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans le monde invisible, le diable agit pleinement. Il a commencé à partir d'Adam et Ève, puis l'humanité en entier est tombée dans déchéance, est tombée perdue, puis qu'elle est tombée séparée de Dieu, puis tout l'ensemble de l'humanité est comme géré, contrôlé par le diable présentement. Vous allez me dire, « Ouais, mais je ne l'ai pas vu. » On n'est pas obligé de l'avoir vu pour admettre que c'est là. On a juste à mettre notre foi dans ce qui est déjà déclaré dans la parole de Dieu. Pourquoi on doit mettre notre confiance dans la parole de Dieu puis bâtir notre foi sur la parole de Dieu? Parce que sans la parole de Dieu, on peut rien connaître de ce qu'il y a, de ce que Dieu a comme plan, de ce que Dieu nous révèle sur sa pensée, de ce que Dieu a fait comme action à travers Jésus. On peut rien, si on ne prend pas la Bible pour se guider, on peut s'inventer n'importe quelle idée personnelle, se faire nos propres religions, puis essayer par nos propres efforts de se rendre à quelque part, mais on ne saura même pas où ce qu'on veut se rendre, parce que si on sait qu'il y a un ciel, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a une résurrection, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a un jugement après la mort, c'est dans la Bible. Si on sait qu'il y a des choses dans le monde invisible, le diable, ses démons, il y a les anges de Dieu, que Dieu agit, c'est dans la Bible. Si on sait qu'est-ce que Jésus a fait, c'est dans la Bible. Fait que si on veut en savoir plus sur le plan de Dieu, mais allons consulter la Bible, allons lire les versets que Dieu nous a laissés. Là-dedans, c'est la plus belle et la plus grande richesse qu'on ne peut pas trouver pour nous faire comprendre ce qui se passe présentement. Il y a soit qu'on adhère à l'idée qu'on croit à la parole de Dieu, ou soit qu'on dit, moi, je ne crois pas à cela, puis là, je fais mon idée selon ma philosophie, ma manière de voir, jusqu'à où ça va vous mener. Selon la Bible, on ne peut pas marcher sans la parole de Dieu. Tout disciple doit demeurer dans sa parole. Si on dit qu'on croit que Jésus est venu, qu'on aime Jésus, qu'on veut être suivre, même si on dit qu'on veut suivre Jésus, mais il faut lire la Bible, il faut suivre la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui est notre chemin, notre guide, notre boussole, notre map. Jésus a déjà révélé l'ensemble de tout ce qu'on avait besoin de connaître, puis les apôtres avec, puis ça nous est écrit dans le Nouveau Testament. C'est ça que je regarde le plus souvent. Mais dans l'Ancien, qui était la parole de Dieu aussi, il y a des choses qui étaient cachées pour de ce temps-là, mais ça nous est révélé dans le temps d'aujourd'hui, puis il est important d'y aller puiser. Pour continuer un peu où ce qu'on était rendu, la semaine passée, je vous ai parlé que Dieu avait créé le monde invisible, qu'il avait créé des anges, des chérubins, des séraphins, des archanges. Ils sont pas tout puissants, ils sont pas omniprésents, ils connaissent pas la fin de l'histoire de la vie, ils sont très limités dans ce qu'ils peuvent faire, ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur accorde la permission de faire. Puis aujourd'hui, on continue un peu dans cette idée-là, que Dieu, dans la manière qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il a créé le monde invisible, c'est qu'il a créé des autorités. Si on compare ça avec la vie d'aujourd'hui, là, nous autres, notre pays, tu as le premier ministre, qui est le titre le plus grand dans la hiérarchie des gens qui dirigent le pays. Tu as des ministres. T'as la loi, les juges, puis la Cour suprême, puis eux autres, ils établissent les lois. puis ils font respecter les lois, puis là, tu traînes quelqu'un en cour pour faire respecter la loi, pour qu'il soit jugé en fait, à ta faveur ou contre. L'idée, c'est que le système de justice, ça fait partie des autorités. Fait qu'on voit que même dans cela, il y a des grades différents, parce que dans la loi, il y a des chefs de policiers, il y a le gouvernement qui donne des directives, une ville engage des policiers, puis là, il y a des autorités, là, des chefs de poste de police, il y a les policiers, puis même parmi les policiers, il y a des grades, des sergents, des lieutenants, des... Puis toute la hiérarchie de l'autorité d'un pays, moi, je ne l'ai jamais fait, ce diagramme-là, bon, quelqu'un pourra faire ça, là, puis il verra toutes les différentes étapes que les grades sont dans la vie terrestre. Et dans le monde invisible, c'est exactement la même chose. Dieu, il a assujetti la vie terrestre aux anges. Les anges, c'est eux qui devaient régner sur la terre, qui ont été placés par Dieu depuis avant la création pour régner sur la terre, puis ils sont supérieurs aux humains. Puis Dieu, dans Éphésiens 6:12, nous dit... On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Notre lutte, là, nos combats, c'est pas contre les humains personnellement, là, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, puis les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand on parle de domination, là, ça veut dire des magistrats ou des premiers, ceux qui sont en tête. Probablement que c'est subdivisé par pays, qu'il y a des rois dans le monde spirituel qui règnent sur des pays. Ça, on peut le voir dans Daniel, quand le roi de Perse a résisté à l'ange Gabriel, puis ces affaires-là. Tu vois qu'il y a des hiérarchies dans le monde invisible, de rois, de premiers dans le monde invisible, qui sont là, qui règnent sur les pays. Il y en a qui sont de Dieu, puis il y en a qui sont pas de Dieu dans ces grades-là, parce qu'il y en a qui ont abandonné leur rôle de servir Dieu dans tout cela, puis se sont mis à servir le mal, servir à suivre Satan, mais ça, on va le démêler un petit peu plus loin. Fait que dans les deux, ça dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les premiers. On a à lutter contre ces rois-là, spirituellement parlant, qui dominent, c'est des dominations, c'est des rois qui dominent sur des territoires. On a à lutter contre des autorités. Les autorités, ça veut dire des supérieurs, des pouvoirs, des puissances, ça peut être des gouvernements, des maîtres ou des juridictions. C'est des autorités spirituelles, autant qu'un roi, c'est un pays, mais chaque pays peut être subdivisé par des juridictions, des territoires, puis c'est des êtres puissants, établis pour régner sur l'ensemble des autres qui sont subalternes dans le monde invisible. C'était là, depuis le début, que Dieu a créé ça, mais il nous dit qu'on a à lutter contre ça. On les discerne pas comme par leur nom tout le temps ou par leur grade. Quand on combat, on dit toujours « arrière de moi Satan », mais on peut s'adresser à une autorité, on peut s'adresser à un pouvoir, on peut s'adresser à celui qui domine, puis on combat dans le monde invisible. On n'est pas obligé de savoir contre qui qu'on se bat, mais on le sait qu'on se bat contre l'adversaire, le diable. Fait que quand tu combats contre l'ennemi, tu prends autorité dans le nom de Jésus, tu combats l'ennemi qui est Satan, l'adversaire. Mais toutes les autres sont de ceux qui l'ont suivi, sont sous son règne. Il y a aussi des princes de ce monde de ténèbres. C'est que le Seigneur, dans le monde invisible, il avait établi qu'il y avait des princes dans les hiérarchies, des chefs, des princes d'anges, qui étaient là, c'est des princes de cet âge, c'est les puissants de ce monde. Pas nécessairement, je parle pas des humains, là, je parle encore dans le monde invisible, dans les hiérarchies. Il y avait ceux qui règnent. Puis ils sont là comme pour exercer une influence sur la terre. Ils devaient, depuis le début, aider les humains, diriger les humains, conduire les humains à obéir à Dieu. Mais dans leur rébellion, ils servent de leur pouvoir pour agir, pour influencer négativement les humains. Puis il y a aussi les esprits méchants. Puis les esprits, c'est les êtres spirituels ou les vents, les souffles, c'est appelé de différentes façons. Les esprits sont là, puis sûrement vous avez déjà vu des films, puis ils montrent des esprits là-dedans. Hollywood, ils ont fait beaucoup de films là-dessus. Mais les esprits existent. Puis surtout... Ceux qui recherchent les tables de Ouija, aller consulter les médiums, aller consulter les astrologues, toute la bonne aventure. Va essayer de connaître l'avenir par autre chose que de consulter la parole de Dieu. Tu trouves, veux pas, être en train de consulter ces hiérarchies-là. Ça fait partie du monde des ténèbres. Ça fait partie du monde qui s'est rebellé contre Dieu. Puis c'est on combat pas contre les anges de Dieu, on combat contre les méchants dans cela. Faut pas oublier qu'il y en a des bons aussi qui servent Dieu. Il y en a encore plus de bons que de pas bons. Il y en a encore plus de bons que de pas bons. Des anges qui servent Dieu, puis ils sont plus puissants. La semaine passée, je vous l'ai dit, puis je vais vous le répéter dans la suite. Les anges de Dieu sont plus puissants. Oui, selon les commentaires bibliques, le passage que je vais vous lire tantôt, il parle de ça. Ces autorités-là, ces anges puissants-là, ils sont plus puissants, sont supérieurs en puissance que tous les êtres humains réunis ensemble. On la preuve, on voit un passage dans l'Ancien Testament qu'un seul ange de l'Éternel avait combattu une armée complète, puis ils sont réveillés le lendemain, tout le monde est à mort. Un seul là, ange pourrait exterminer tous les humains de la surface de la terre. Pourquoi qu'ils le font pas? C'est parce qu'ils n'ont pas la permission de le faire. C'est pas eux autres qui décident. Ils ne font que ce qui leur est permis de faire, c'est Dieu qui contrôle l'ensemble. Puis ça, on le voit qu'ils sont plus puissants. Dans 2 Pierre 2, verset 11, au verset 11, ça dit, tandis que l'autre verset avant, ça nous dit, « Surtout ceux qui vont d'après la chair d'un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité, ils sont audacieux, arrogants, ils craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. » Quand tu t'adresses à des démons, les anges de Dieu n'injurient pas les démons, ne méprisent pas les démons, ne leur dis pas des noms comme des noms qui tu sais, quand que tu veux abaisser quelqu'un, c'est des cons, c'est des stupides, c'est des deux de pique. Mais nous autres, les humains, on s'abaisse souvent en se disant des paroles comme ça. Les anges de Dieu qui sont supérieurs en puissance aux humains ne disent même pas de choses injurieuses aux autres démons. Puis il y a comme une idée qui veulent nous prouver là-dedans, qu'ils sont supérieurs en puissance que nous, puis ils le font même pas. Le point que je veux qu'on pèse là-dessus, c'est, rappelez-vous, les autorités spirituelles sont plus puissantes que n'importe quel humain. Ce verset-là, c'est ce que c'est en train de nous dire, c'est ça que je veux qu'on regarde dans ce verset-là. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent, on y va par notre chair pour essayer de combattre contre le diable. Puis là, on essaye dans nos idées, puis on pense qu'en s'inventant des pratiques ou des, comme mettons, je vais prendre de la fumée, de l'encens, puis là, je vais essayer de chasser un esprit, ou prendre un crucifix, ou prendre des objets. Ça, là, ça ne sert à rien pour chasser ou de l'eau bénite, ou peu importe là qu'est-ce qu'on peut prendre pour essayer de chasser. Ça sert à rien, parce que ça, c'est utiliser les choses de la chair. Les anges, il y a une chose qu'ils craignent, pas les anges, mais les démons, il y a une chose qu'ils craignent, c'est l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, on va le voir dans la suite. C'est ce qu'on doit comprendre. Nos armes sont pas charnelles, nos armes, ce qu'on combat, ça provient de la parole de Dieu, c'est des puissances que Dieu nous a révélées, qu'il nous a données, c'est son épée qui est la parole, c'est avec ça qu'on combat. Ces anges-là qui étaient en autorité, placés dans des grades différents, puis qui avaient un ministère à exercer dans ce monde, à servir Dieu parmi les humains, ils ont été créés libres comme les humains. La liberté de penser, la liberté de choisir qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Comme Adam et Ève, la liberté de prendre du fruit défendu, il y a eu la liberté d'obéir ou de désobéir. Les anges, c'est la même chose, ils avaient le même libre arbitre. Chacun, ils ont une volonté personnelle. Chaque ange, ce ne sont pas des robots, ce sont des êtres séparés, individuellement un de l'autre, puis ils ont décidé volontairement, ceux qui suivent Dieu, ils ont décidé de suivre Dieu volontairement, puis ceux qui se sont rebellés ont décidé de se rebeller à Dieu, puis ils ont décidé de suivre le diable. Ils ont une volonté personnelle. Ce qui les a amenés, Satan et ses démons, à se rebeller contre Dieu. Puis ça, on va voir dans d'autres versets que ça a des conséquences graves. Contrairement aux humains, nous autres, après qu'on soit rebellés à Dieu, pendant X années, Dieu nous a accueillis par grâce, puis nous accorde quand même le pardon. Mais les anges n'ont pas eu cette grâce-là. On va le voir, il y a un verset qui en parle, mais là, je le garde pour tantôt. Mais on va le voir. À un certain moment dans les temps avant la création des premières créatures humaines, Adam et Ève, Satan, lui, s'est comme enflé d'orgueil dans ce qu'il est en train de faire comme organisation. Il est un chérubin très haut placé, il est en autorité sur beaucoup d'autres anges puissants, puis il avait un rôle à jouer dans le monde invisible, un rôle important, puis ça lui a monté à la tête. On dirait que quand tu as le libre arbitre, puis tu penses que les choses viennent de toi, c'est que ça te monte à la tête, puis là tu penses que tu peux décider de faire autrement de ce que le maître a décidé. Il s'est rebellé de l'autorité de Dieu volontairement. On voit ça dans Ézéchiel 28, on va aller le lire. Satan, lui, est un chérubin protecteur aux ailes déployées. C'est un être qui était là pour protéger, pour aider, pour bénir, pour faire du bien. Quand tu parles d'elle, là, ça sous-entend aussi que tu es rapide pour aller faire ta commission, pour aller obéir. Ou ça peut être comme tu mets tes ailes, puis tu couvres les autres de ta protection. Là, on voit un passage dans ça qui est extraordinaire parce que c'est le seul passage qu'on peut voir qui s'adresse comme ça pourrait s'adresser à Satan. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur éternel. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection.
Quel verset?
28-12. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. C'est vrai que Satan est en Éden. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Satan est en Éden, puis il a tenté Adam et Ève dans Éden de désobéir à Dieu. Fait que son territoire à Satan était en Éden, où ce qui y accomplissait son commerce ou son autorité. On va le voir. Et tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Puis, apparemment que dans le ciel, il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir et d'escarmouche, d'émeraude et d'or. Et voyez-vous, il était comme habillé avec toutes sortes d'ornements, avec toutes sortes de perles de toutes les sortes, puis qui, en réalité, ça symbolise la richesse puis la grandeur de son commerce. Puis il y avait des tambourins puis des flûtes qui étaient à son service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tout ça, là, c'était préparé d'avance, avant même. Dieu voulait bénir le chérubin. Dieu voulait bénir le chérubin protecteur, puis il avait accordé plein de bénédictions spirituelles pour le louanger même, parce qu'il y avait des musiciens qui chantaient comme sa louange. C'est comme les rois aujourd'hui, les rois, ils ont des chants qui chantent des louanges pour élever leur roi, puis ça donne des louanges au roi. Humainement parlant, ça se fait, ça s'est fait dans vie. Puis dans le monde invisible, c'est la même chose. Ces autorités-là, ils étaient louangés par ce que Dieu avait mis en place pour les élever. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ça veut dire que sa job, c'était comme déployer ses ailes, assurer une protection, être un pourvoyeur, puis accomplir des choses. On comprend pas tout ce qui se passait, mais il se passait des choses dans le monde invisible. Il dit, « Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, on voit que Satan a eu un jour où il a été créé, il n'est pas éternel. Fait qu'il est intègre depuis qu'il a été créé jusqu'au moment où que l'iniquité a été trouvée en lui. » C'est là Dieu nous explique pourquoi que Satan a tombé. Il dit, par la grandeur de ton commerce, Dieu l'avait établi sur une grande administration. On ne sait pas de quoi, mais lui, il vivait, puis il était comme élevé au travers de tout ça, puis il avait tous les champs, puis il marchait au milieu des pierres précieuses. C'est sûr que ça devait lui souffler un petit vent, un petit peu d'orgueil, peut-être. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Oups! Voyez-vous que ça l'amène l'orgueil? Ça l'amène du power trip. Un power trip. Tu te penses puissant. Ça te monte à la tête puis tu commences à écraser les autres, à dominer les autres. Puis là, tu deviens violent. Puis là, tu commences à être méchant. C'est ça ce qui est arrivé à Satan. Puis il a péché. Puis à cause qu'il a désobéi à Dieu, il a été précipité de la montagne de Dieu. Puis ça dit, « Je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. » Il dit, « Je te jette par terre puis je te livre en spectacle au roi. » Il dit, « Par la multitude de tes iniquités, il n'a pas été dans un seul péché, c'est dans multitude de péchés, et par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. » Il était dans comme élevé et glorifié, Satan, puis à cause de sa méchanceté, il a profané son sanctuaire. Il était dans le sanctuaire de Dieu. Il marchait au milieu des plaies étincelantes. Il était dans la bénédiction et dans la sainteté de Dieu. À cause de cela, il a profané son sanctuaire. Son sanctuaire est devenu impur. Il a été méchant, puis il a été jeté dehors. Il dit, « Je te fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. » Fait que on voit qu'est-ce qui est en train de l'animer. Un feu qui le dévore. Puis on va le voir dans d'autres versets qui nous parlent qu'il est enragé. Il est en colère. Ce feu-là qui le dévore, qui est dû à une conséquence de tout ce qu'il a vécu, son orgueil, sa dureté, sa méchanceté, à cause qu'il a fait plein de choses qui déplaisaient à Dieu. Il a été précipité, il a été jeté dehors, puis là, il est animé d'un feu qui le dévore, puis là, Dieu, il promet son jugement. Il dit, « Je te réduis en cendres sur la terre, parce que c'est sur la terre que son jugement va être donné, puis qui a été donné, puis on va le voir dans d'autres versets. » Il dit, « Aux yeux de tous ceux qui te regardent, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, puis tu ne seras plus à jamais. » Puis ça, son jugement s'en vient. Il n'est pas encore accompli à 100%, mais il y a un jour où il ne sera plus. Mais pour le moment, il est encore là, puis il se passe des choses. Jude, au verset 6, nous dit que ces anges-là, ils n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Il était placé dans un rang excessivement digne. Il était loué, glorifié par l'ensemble de tous ceux qui étaient là, puis il était élevé en royauté, puis ils n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Ça dit au verset 6, ils sont réservés pour le jugement du grand jour, ils sont enchaînés par les ténèbres, enchaînés éternellement par les ténèbres. Ils ne peuvent pas sortir des ténèbres. Les anges des ténèbres, le prince des ténèbres, c'est Satan. Puis il est enchaîné éternellement. Il ne peut plus sortir de cet état-là. Puis les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ils étaient placés là, il y avait tout à leur disposition. Ils ont tout abandonné, puis ils ont décidé de suivre Satan. Puis la conséquence, on va la voir dans la suite. Qui, comme que dit Pierre tantôt, qu'il y avait un tiers des anges qui ont suivi Satan, on le voyait dans sa chute, il a entraîné un tiers des anges qui l'ont suivi. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 12, verset 3. Puis ils travaillent avec lui à la perdition des humains, puis ils sont devenus des démons. Mais dans Apocalypse 12, ça nous dit, Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'est un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses 7 têtes, 7 diadèmes. Il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, puis les jetait sur la terre. C'est sur ce passage-là qu'on voit que le grand dragon, qui est le diable, le serpent ancien, qui est Satan, mais c'est lui qui a entraîné un tiers des étoiles du ciel, que je vous ai dit la semaine passée quand j'ai parlé des étoiles. Dans Job, quand que Dieu a demandé à Job, où étais-tu quand j'ai créé la terre, quand que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse, puis ça ne pouvait pas être les étoiles physiques, que c'était les étoiles du monde invisible, les anges. Mais là, on voit que dans ce passage-là, sa queue au diable a entraîné un tiers des étoiles du ciel. C'est les anges qui l'ont suivi. On voit que cette rébellion-là est quand même une rébellion massive, parce qu'il y en a un sur trois qui se sont rebellés contre Dieu. Mais il en reste encore deux sur le côté de Dieu. Deux sur trois qui sont encore des anges de Dieu, au service de Dieu, qui sont là pour nous assister dans notre lutte, dans notre combat. Le salut offert par Jésus, pour vous dire qu'ils sont enchaînés éternellement par les ténèbres, puis ne peuvent plus sortir des ténèbres, parce que l'œuvre de Jésus n'est pas pour les anges. Vous allez voir, il y a un verset dans Hébreux 2, le verset 16, qui nous dit cela. Ils sont faits. Il n'y a aucun plan de salut possible préparé pour les anges déchus. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est écrit dans Hébreux 2, 16. Quand Jésus est venu mourir sur la croix, c'était pour les humains. Il dit, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. C'est pas à des anges qu'il est venu en aide, Jésus. Les anges, il n'y a pas eu de plan préparé pour les racheter. Eux voyaient Dieu, puis ont décidé de se rebeller, puis Dieu n'a rien à faire pour eux. Nous marchons à l'aveuglette. On n'a jamais vu Dieu. On a marché dans la rébellion parce qu'on est né dans ce corps de rébellion-là. Puis on a pratiqué la rébellion pendant un temps. Mais lorsqu'on a entendu la vérité, qui est le salut offert par Jésus, on l'a saisi par la foi, puis là, on marche sans voir. Puis Dieu, il honore ça, puis c'est un plan que Dieu a fait, qu'on devait être sauvé par la foi en Jésus. On a saisi par la foi le salut qui est offert en Jésus, puis on l'a dit, oui Seigneur, je le crois que tu es mort sur la croix pour moi. On l'a accepté. Maintenant, il nous pardonne nos péchés à cause qu'on marche par la foi, puis il nous transporte dans son royaume. On était dans le royaume des ténèbres, le prince des ténèbres qui est le diable, régnait sur nos vies, puis le moment où on a accepté Jésus pour le recevoir comme notre sauveur, comme notre Seigneur, ben on a changé de camp. On n'appartient plus au diable, puis le diable n'a plus le droit d'agir sur nous. On est déjà victorieux. Le seul droit qui agit sur nous, là, c'est les permissions temporaires qui lui sont accordées de nous attaquer, de nous tenter, de nous tendre des pièges, c'est accordé par Dieu. Ça, on va le voir dans un autre verset, mais la semaine passée, j'en ai dit un, quand j'ai parlé que Satan avait réclamé Pierre pour le cribler comme le froment, puis Jésus a intercédé afin que Pierre, sa foi ne défaille point. Dieu permet à Satan d'attaquer, mais il peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet. Puis Dieu, en même temps, Jésus prie pour nous pour qu'on puisse marcher dans la foi et persévérer dans la foi. Gloire à Dieu! Vu qu'ils n'ont pas de plan de salut pour être sauvés, parce que Jésus est venu pour les humains, leur jugement est déjà sonné, puis leur condamnation est déjà préparée, parce que dans Matthieu 25, 41, Jésus est en train de nous dire qu'il y a déjà un lac de feu, une géhenne de feu, l'étang ardent de feu et de soufre, qui est déjà là, créé, préparé pour le diable et pour ses anges. Ils sont, ce lieu-là, le monde dit l'enfer, mais c'est pas l'enfer. L'enfer, c'est le séjour des morts. Le mot enfer, là, que tout le monde utilise, c'est l'Hadès, Puis dans le Nouveau Testament, Louis II traduit ça par « séjour des morts ». Là, tout le monde mêle les affaires. L'enfer, l'Hadès, le séjour des morts, c'est l'endroit d'attente en attendant la résurrection, en attendant d'être jeté dans les temps de feu ou d'entrer dans la vie éternelle. C'est le lieu d'attente. C'est pas le lac de feu. Le lac de feu, il est appelé la Géhenne, la vallée de Guignon, l'étang de feu et de soufre, le lac de feu, l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ça, c'est les noms donnés au lieu éternel de perdition après la résurrection, mais la résurrection des perdus. Mais ce lieu-là, il a été créé pour Satan et ses démons. C'est un lieu de jugement, mais il y a des gens qui vont être jetés là avec le diable. Tous ceux qui ont suivi le diable, qui n'ont pas été cherchés, le seul cadeau qui est offert par Dieu, le seul moyen, la seule bouée de sauvetage qui est offert par Dieu, c'était d'être sauvé par Jésus. Il n'y a pas d'autre manière pour être sauvé, pour être exempt du jugement puis de la condamnation pour nos péchés. Il n'y a pas d'autre moyen que Dieu a donné que par le nom puissant et béni de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, il y a juste la foi en son nom qui peut nous donner le salut, des bénédictions, des guérisons, des délivrances. Tout s'obtient par lui seul. Mais on voit que sa défaite a déjà commencé dans l'Apocalypse 12 à partir du verset 7. On voit que déjà il y a eu un combat dans le ciel suite à la mort sur la croix de Jésus. Puis Satan a commencé déjà à prendre une débarque. Il a été précipité du ciel, comme qu'on a vu dans le passage tantôt de Ézéchiel. Il dit « Je te précipite ». Mais quand est-ce que ça s'est produit, cette précipitation-là, où ce que le diable a été jeté dehors du ciel? Ça s'est produit après la mort de Jésus. Parce qu'il dit « Bientôt, Satan va... Jésus qui dit ça, j'ai oublié de prendre la référence, mais... Le prince de ce monde sera jeté dehors. Il a dit ça avant de mourir, Jésus. Il sera jeté dehors. Jeté dehors de quoi? Pas de la terre, non. Il s'est fait jeter dehors du ciel. Il a été précipité. Son jugement n'était pas encore donné jusqu'au temps où Jésus il est mort puis il est ressuscité. Là, c'en était fait. Puis là, il y a eu une guerre dans le ciel qui s'est produite quand c'est arrivé. Puis là, les anges, Michel et ses anges, ont combattu contre le dragon, puis ils l'ont jeté dehors du ciel, puis il a été précipité sur la terre. Vous allez le lire ici, dans Apocalypse 12, verset 7. Il y a eu une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, puis le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quand il y a eu cette guerre-là, ils sont sur la terre, ça le dit dans le verset. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Celui qui séduisait toute la terre, il fut précipité où? Sur la terre. C'est le prince de la puissance de l'air. Dieu lui a encore donné le droit d'agir dans ce monde ici, présentement. Le diable a encore le droit d'agir ici. Puis c'est contre ça qu'on a à lutter. Contre ceux qui sont précipités ici dans ce monde. Parce que Dieu, il y a un temps où ce qui va arriver, où ce qui va être enlevé de ce monde, le diable. Mais c'est pas encore le temps. Dieu, il y a un temps précis où ce que ça va se produire, ce deuxième jugement-là. C'est au retour de Jésus-Christ, quand il va revenir pour rechercher son Église. Satan va être enchaîné après ça pendant 1000 ans, puis il va avoir un règne de 1000 ans sur la terre, un règne de paix sur la terre. Mais en attendant, il est encore là, puis votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. C'est dans ce monde ici, il est pas dans le ciel. Il continue à réclamer des choses, mais il n'a pas le droit de faire telle et telle chose. On voit d'autres versets qui parlent de ça. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Fait que tous les démons avec ont pris une débarque. C'est pourquoi, au verset 12, allez au verset 12, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. C'est ça qui était le feu qui le dévore, que Dieu a mis en lui, qu'on a vu tout à l'heure. Il est animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a peu de temps. Ses jours sont comptés. Moi, je sais pas dans combien de temps que ça va arriver, mais Dieu le sait déjà, puis c'est déjà décrété de la part de Dieu qu'il n'y en a pas pour grand temps. Puis quand Jésus va prendre le contrôle, il va y faire sa fête. Inquiétez-vous pas. Puis là, au verset 17, allez voir le verset 17. « Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre à qui? Sur la terre? Au reste de sa postérité de la femme, qui est le peuple juif, et à ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus. Contre qui que le diable s'acharne présentement sur la terre? Il s'acharne contre les Juifs, puis il s'acharne parce que les Juifs étaient l'héritier de la première promesse. Puis les Juifs, selon la chair, sont faits, puis le seul moyen que les Juifs peuvent être sauvés, eux aussi, il faut qu'ils reconnaissent le Messie. Puis là, on voit que même ceux qui reconnaissent le Messie, ceux qui gardent les commandements de Dieu puis qui ont le témoignage de Jésus, mais eux autres aussi sont attaqués par le diable. Fait que le diable qui cherche à ruger, puis qui cherche à nous capturer, puis à nous faire tomber dans le péché, puis à nous attaquer, à nous lier, à nous faire la vie difficile, c'est écrit que c'était supposé d'arriver, faut pas être surpris de ça, c'est contre ça qu'on a à combattre. Dès le début de la vie des premiers humains, Adam et Ève, le diable a travaillé de façon à les entraîner à désobéir. Ça, on voit ça dans Genèse 3, mais on n'y ira pas le lire. Vous connaissez comment est-ce que Satan est arrivé puis a tenté Ève de désobéir. Après ça, Adam est tombé dans le péché. Depuis le début que le diable travaille à amener les humains dans une rébellion comme lui-même a été rebelle à Dieu. Parce que tous les humains sur la terre ont été créés pour obéir à Dieu. C'est fort ce que je vous dis là. Tous les humains sur la terre devaient servir à la louange de Dieu. Puis si les gens sont pas là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont tombés dans un piège du diable, puis le diable lui met des menteries dans la tête, puis les gens n'y arrivent pas à comprendre qu'il faut qu'ils donnent leur vie à Dieu, puis qu'il faut qu'ils passent par Jésus pour être pardonnés, parce que en partant, nos péchés nous privent de la gloire de Dieu. Il faut être débarrassé de nos péchés, puis le seul moyen d'en être débarrassé, c'est par le sang précieux et béni de Jésus qui était versé à la croix il y a 2000 ans. C'est par ce sang-là qu'on peut être purifié de nos péchés. Si on passe pas par Jésus, on peut pas atteindre Dieu le Père. Nul ne vient au Père que par moi, que Jésus a dit. Faut que tu passes par Jésus, puis après ça, tu reçois le Saint-Esprit, puis là, t'es changé de camp, puis t'es rendu une nouvelle créature, puis t'es un concitoyen des saints, puis ton nom s'inscrit dans le livre de vie, puis tu tombes dans une autre autorité. Puis on va tout voir ça dans les armes et la puissance de Dieu à notre disposition, dans les messages dans la suite. Fait que, depuis le début, le diable animé d'une colère et d'une méchanceté, il veut mettre des bâtons dans les roues dans le plan de Dieu. Puis il y a les premiers humains qui ont été créés, il a réussi à les faire tomber dans sa rébellion. Puis là, la rébellion se développe. Puis l'esprit du mal a un plaisir d'agir dans tous ceux qui sont rebelles. Puis les gens rebelles, ils pensent qu'ils conservent leur liberté. « Oh, moi, je suis encore libre de faire ce que je veux pas devenir un chrétien pour être obligé d'aller à l'église le dimanche, puis être obligé de lire, être obligé de prier, être obligé d'obéir, puis de lâcher toutes les choses que j'aime. » Puis là, ils veulent pas lâcher leur péché. C'est toutes ces choses-là qui les retient captifs, mais le diable se sert de leur péché pour les garder à lui. Fait que les gens veulent pas lâcher leur péché, fait qu'ils sont conservés dans la rébellion avec Satan. Mais c'est contre ça qu'on a à lutter. Tout ce qu'il pourra faire qui nous attire à abandonner Dieu pour aller vivre une soi-disant liberté. Je suis libre de faire ce que je veux. L'amour libre, là, on peut coucher avec n'importe qui, n'importe quand. Je me prive de rien. Je peux m'enivrer. Je peux prendre de la drogue. Je peux courir après les richesses de ce monde. Puis tous les plaisirs possibles. Je suis libre. En réalité, celui qui se livre au péché il est esclave du péché. Le péché les rend esclaves, puis il leur met des chaînes et des liens, puis ils sont captifs du péché, puis ils sont pas capables de s'en sortir, puis là, ils vivent dans leur drogue, puis ils sont plus capables d'arrêter de prendre la drogue, puis c'est les chaînes que le diable leur a mis dans le cou, puis dans leur dans leurs estomacs, puis dans leurs passions, puis dans leurs plaisirs, puis ils sont captifs de ça, puis il n'y a pas d'autre moyen de s'en sortir que d'aller vers le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, il nous affranchit, il nous libère, puis même plus fort que ça, on devient comme mort, spirituellement parlant, humainement parlant, puis le péché n'aura plus de pouvoir sur toi, parce que t'es en Jésus-Christ. Tu pourras être libre des péchés, puis en demeurant dans sa parole, ça te lavera de tous tes péchés, puis tu deviendras entièrement libre. Puis c'est ce qu'il faut découvrir, le chemin qui nous rend comme cela. Mais le diable, il essaie toujours, encore par ses pièges, ses ruses, ses bâtons d'un roux, de nous garder captifs dans tout cela. Oui, le diable a réussi à conserver l'ensemble de l'humanité sous son contrôle. Il garde l'ensemble de l'humanité sous sa domination. Il les garde dans son royaume, qui est le royaume des ténèbres, puis les gens s'en rendent même pas compte. Si on voit ça dans 1 Jean 5, 19, il dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » C'est pas des farces. Il utilise toujours les mêmes techniques. Il trompe les gens. Il sème le doute. Il vole puis il voile toutes les promesses de Dieu pour eux. Il compte démentrer par ses religions qu'il a inventées. Il compte démentrer puis le monde suit les religions puis ils sont sincères. Il y a plein de monde sincère dans qui suivent les religions. Ils sont sincères mais sont sincèrement dans l'erreur. La sincérité sauve pas. Pour être sauvé, il faut y aller à la vérité. C'est Jésus. Amen. Mais le diable, il trompe le monde, voyons. Ton père suivait cette religion-là. Ton grand-père suivait cette religion-là. Ton arrière-grand-père suivait cette religion-là. T'es dans la vérité. Reste là. Tout est correct. Mais en lui mettant ces mentries-là, les gens vont pas à Jésus. Mais le contraire de ça, c'est, wow, ben beau que mes arrière-parents, ils suivaient cette religion-là. Je vais aller voir dans la Bible si c'est vrai, cette religion-là. Là, tu rouvres ta Bible, tu commences à lire dans le Nouveau Testament. Tu t'aperçois que la Nouvelle Alliance est en Jésus seul. C'est pas Marie qui va te sauver. C'est pas ton crucifix qui va te sauver. C'est pas Allah ni Mahomet qui va te sauver. C'est pas l'ensemble de tes bonnes œuvres que tu vas faire. Puis en pensant que je vais faire plus de bonnes œuvres que les mauvaises que j'ai, puis ça va compenser que je vais être sauvé. Personne ne va pouvoir être sauvé par ses bonnes œuvres. Parce qu'on est sauvé par la foi. On n'est pas sauvé par nos œuvres. C'est par une grâce que Dieu te fait. C'est un cadeau qu'il fait de te donner le salut. Puis c'est par le moyen que tu le saisis, c'est par le moyen de la foi. Il n'y a pas d'autre moyen que de saisir le cadeau de Dieu que par la foi. Oublie de penser de sauver, de gagner votre ciel. Tu peux pas le gagner, ton ciel. Parce que tu rentres pas au ciel à cause de tes péchés. Il n'y a pas d'autre moyen d'être lavé de tes péchés que par croire en l'œuvre accomplie de Jésus. Son sacrifice qu'il a fait sur la croix, c'est le seul moyen qui nous assure que son sang, il était la victime sans péché, qui est décidé de mourir pour les autres, il était tué injustement, puis il prenait notre place d'accepter de mourir, puis il a versé son sang. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est par son sacrifice que nous sommes guéris, délivrés, sauvés. Gloire à Dieu! Puis là, lui, il compte des mentries à tout le monde, puis tout le monde adhère à ses... Pas tout le monde. Beaucoup! Plus de monde que... Il y a plus de monde qui croit au mensonge que de gens qui croient en la vérité. Il y a beaucoup d'appelés puis peu d'élus. Il y a peu de personnes qui trouvent la porte et le chemin. Parce que c'est ça qu'il nous dit. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je le dis beaucoup. Il dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrer le chemin qui mène à la vie, puis il y en a peu qui les trouvent. Faut que tu trouves la porte, faut que tu trouves le chemin. Parce qu'il y en a beaucoup qui savent que Jésus, c'est le Sauveur, mais ils n'ont pas embarqué dans le chemin. Ils veulent pas. Ça en demande trop. Mais Jésus dit, quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Faut que tu sois prêt à mourir à toi-même, à prendre ta croix, puis à le suivre. Si tu es prêt à le faire, il t'accueille, il t'aime, puis il t'accepte, puis il te donne tout ce que tu as à te donner. Le Seigneur, quand il est venu, il a résisté à toutes ses attaques, à toutes ses tentations, parce que, croyez-moi, le diable a mis le paquet pour essayer de faire tomber Jésus dans le péché. C'est sûr. Il savait que c'était le Saint. Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus a commencé à parler? Il y a un démoniaque qui était là dans cette réunion-là. Puis là, le démoniaque, on le sait qui tu es. Tu es venu pour nous perdre. On le sait qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Le diable connaissait Jésus. Sauf que Jésus, il a résisté contre toutes ses tentations. Lui-ci, Jésus connaissait le diable. Alléluia! Oui! Dans Hébreux 4, 15. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Tout ce qu'un humain pourrait être tenté, Jésus a été tenté, mais il n'a pas tombé dans aucun des pièges du diable. Pourquoi qu'il n'est pas tombé? Ben, Jésus n'est pas venu pour n'importe quoi. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Dans 1 Jean 3, 4, c'est ce que ça nous dit. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il fallait que son jugement soit donné au diable. Il fallait que Jésus accomplisse sa mission pour pouvoir le détruire. Quand il est mort sur la croix, le diable, ça y est, j'ai la victoire. Ce qu'il ne savait pas que Jésus a ressuscité entre les morts, parce qu'il n'était pas permis que son sein voie la corruption. C'était l'accomplissement d'une promesse de l'Ancien Testament. Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts, puis Jésus l'avait annoncé lui-ci, mais personne n'a compris, ni les disciples, parce que ça dit que les disciples ont compris ça après qu'il soit ressuscité, puis ni le diable, parce que si le diable aurait compris cette idée-là, il n'aurait pas crucifié, il aurait laissé Jésus mourir de vieillesse, puis personne n'aurait pu être sauvé. Mais il s'est acharné à vouloir arrêter le plan de Dieu en éliminant Jésus. Ça a juste servi à accomplir le plan de Dieu. Puis Jésus n'est pas resté dans la mort parce qu'il était sans péché. Il est ressuscité d'entre les morts, puis il est allé à la droite de son Père. Il a emmené son sang, le sang de la nouvelle alliance qui nous donne d'être pardonnés, d'être purifiés, d'avoir la vie éternelle. Tout est là sur l'autel du ciel. Le sacrifice parfait, il est là. Ça nous a donné des victoires incroyables, parce qu'à cause de sa victoire, nous sommes victorieux aujourd'hui. Acte 10, 38. Jésus, là, il est à loin du Saint-Esprit et de force, que ça nous dit dans ce verset-là. Il avait reçu une onction de puissance qui était nécessaire pour combattre le diable. Ça dit, vous savez comment Dieu a loin d'Esprit Saint et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Gloire à Dieu! C'est ça que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a loin. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les opprimés, puis proclamer la délivrance aux captifs. Bon, mais les délivrances aux captifs, là, c'est quand Jésus ordonnait un démon de sortir d'une personne. La personne était captive par cet esprit-là. Puis Jésus sort de cette personne, Satan, puis la personne s'en allait. Puis il était là pour proclamer, pour crier les délivrances aux gens. C'est ce que Jésus leur ordonnait. C'est ce qu'il nous dit aussi d'utiliser. Nous, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de cet homme ou de lâcher nous attaquer arrière de nous, Satan. On est là pour proclamer les victoires de Christ, puis les prendre les armes de Christ, puis les confesser pour obtenir les victoires contre le diable. Ça dit, résistez au diable, puis il fuira loin de vous. Il a beau être puissant, mais il va s'apercevoir qu'en Jésus, on a reçu une autorité bien plus puissante que la sienne, parce qu'on marche dans l'autorité suprême. On marche dans l'autorité parce que j'ai expliqué qu'il y avait des autorités, domination, autorité, pouvoir, puis les princes, puis les esprits. Mais au-dessus de tout cela, il y a Dieu, puis l'autorité du nom qui est au-dessus de tous les noms. Jésus, il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas un démon qui est plus haut que lui. Jésus a l'autorité suprême. C'est en son nom à lui. Quand on accepte Jésus, tu reçois la justice de Christ. Et là, ça t'est permis de marcher en son nom. Tu marches dans son autorité. Jésus, quand il est venu sur la terre, il a fait une brèche dans la colonie de l'ennemi. Il a jeté à terre le royaume de Satan, puis il l'a dépouillé. Dans Colossiens 2,15, ça dit, il les a dépouillés. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Puis dépouiller, c'est pas enlever les poux. Dépouiller, c'est d'y faire la peau. Si tu arraches la peau là, d'un animal, tu le dépouilles. Puis le diable, il s'est fait faire la peau par Jésus quand Jésus a remporté la victoire. Il se pensait bien puissant, bien grand, puis exerçait son autorité. Puis quand Jésus a ressuscité, il a pris une débarque, s'est fait jeter sur la terre. Puis toutes les armes dans lesquelles le diable se confiait, ils lui sont été enlevées. Puis c'est lui, Satan, qui avait la clé de la mort, puis il est enlevé. Puis c'est Jésus maintenant qui a la clé de la mort puis du séjour des morts. Puis ça nous dit dans ce passage-là, il a dépouillé les dominations, les autorités, puis il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Qu'est-ce que ça nous donne? Par Jésus, Dieu nous assure une victoire complète sur le diable et toutes ses puissances. Dans Hébreux 2, le verset 14 et 15, ça nous parle de ça. En parlant de Jésus, lui aussi a participé au sang et à la chair. Il a également participé lui-même afin que par la mort, Jésus, là, par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Le diable avait la puissance de la mort parce qu'il tenait tout le monde dans le péché. Mais Jésus, en mourant sur la croix, il a réglé la dette du péché. Fait que l'arme dans laquelle que Satan il tenait dans sa main pour garder captif le monde, il l'a pu, cette arme-là. Il a plus le pouvoir sur la mort. Jésus a vaincu celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Puis il délivra. Checkez bien qui va délivrer, là. Il va délivrer tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. C'est qui ces gens-là que toute leur vie ont été retenus dans la servitude? Non. Non. C'est nous. Toute notre vie, par la crainte de la mort, nous autres, on a peur de mourir, là, mais on est retenu toute notre vie dans une servitude à servir Dieu. Parce que on se laisse pas aller. Fait qu'on est retenu. À cause qu'on est de ceux qui marchent dans ses voies, il nous assure la délivrance. La délivrance n'est pas nécessairement toujours une délivrance dans nos combats. C'est premièrement d'être sauvé. Deuxièmement, nous équiper de tout ce qu'on a de besoin, de l'Esprit de Dieu, puis de la parole de Dieu, des armes de Dieu, de l'autorité du nom de Jésus. Les armes et la puissance de Dieu qui nous équipent, là, c'est ça qui nous permet de marcher dans la victoire. Puis à cause de sa mort, il nous a tous délivrés. Il nous permet d'être délivrés. Ceux qui sont morts dans le péché, il n'y a rien à faire pour eux. Il n'y a pas de salut possible. Ceux qui sont morts dans la foi, ils sont pardonnés, puis ils reçoivent tout ce qui est promis de la bénédiction de Dieu. Même Abraham, dans ce temps-là, avant que Jésus vienne, il était sauvé par la foi. C'était Abraham qui était dit, « Mon juste vivra par la foi ». Le salut par la foi, c'est depuis le début de la création. C'est pas une nouveauté. C'est juste que là, présentement, c'est plus répandu qu'avant. Il y a plus de monde qui marche par la foi. Mais ça a toujours été le salut par la foi en Dieu et dans ce que Dieu va faire. Puis Dieu était pour envoyer un Messie. L'Ancien Testament annonçait un Messie. Il croyait un Messie à venir. Quand le Messie est venu, nous autres, on croit au Messie qui est venu. C'est ça qui nous sauve. La victoire de Christ nous est donnée et nous pouvons et nous devons combattre en prenant l'exemple sur Jésus. Tu ne deviens pas chrétien. « Oh Seigneur, j'accepte Jésus, je veux être pardonné. » C'est correct, là tu commences. Mais tu n'as pas accepté Jésus pour continuer à être ce que tu étais avant. S'il te donne une victoire quand tu viens à lui, s'il te donne le pardon, puis il t'équipe de tout ce qu'il a te donné, c'est pour que ta vie change, puis que tu remportes des victoires dans ta vie, puis en plus, tu aides d'autres personnes à rentrer dans les victoires. Dieu veut pas qu'on reste comme qu'on était. Fait que faut apprendre le combat. Faut apprendre qu'on est préparé pour la guerre, puis qu'on a lutté contre le diable, puis qu'on a lutté contre ses mensonges, puis ses doutes, puis tout ce qu'il essaye de mettre pour nous empêcher d'avoir la foi, puis de garder la foi. Y a-t-il des choses présentement qui peuvent nous nuire, qui nous minent notre foi? Y a-t-il quelque chose qui vous dérange, qui vous nuit dans votre croissance spirituelle? Mais ces affaires-là, c'est des attaques de l'ennemi. Il essaye de miner votre foi, créer des doutes. Il va vous aller entendre une phrase de quelqu'un qui a une théorie sur la création. Ah, il y a des extraterrestres. Là, il y a un doute qui s'aime. Y a-t-il vraiment des extraterrestres? Là, on se met à croire à toutes sortes d'affaires. Il y a des affaires qui peuvent nous déranger, mais laissons-nous pas déranger du plan de Dieu annoncé dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Cet ennemi nous guette puis cherche à nous dévorer. Dans 1 Pierre, ça dit « Veillez, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes tentations, les mêmes souffrances sont imposées aux frères dans le monde. » Le prochain verset, c'est un passage dans l'Apocalypse. Il y a une vérité là-dedans qui m'a fait clic ce matin. Il y a une lumière qui s'est allumée. Clic, clic. Apocalypse 2, verset 9. On va aller lire ce passage-là ensemble. Ben, hein? C'est des révélations. Là, on voit que cette lettre-là est adressée à des chrétiens. Puis on peut être dans cette position-là. Je connais ta tribulation, ta pauvreté, bien que tu sois riche, en parenthèse, spirituellement, et les calomnies, ça c'est des persécutions, hein, de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, puis qui sont une synagogue de Satan. Là, on voit que ces chrétiens-là passent par un mauvais quart d'heure. Verset 10. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. On a-tu déjà entendu que si tu es en Jésus, tu souffriras plus ou tu n'auras plus de rien de Non, non, ça, c'est pas biblique. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Là, la prochaine phrase est forte. Voici. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Pour quel but? Afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, puis je te donnerai la couronne de vie. Qu'est-ce qu'on voit dans ce verset-là? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces gens-là? C'est des chrétiens qui souffrent, des chrétiens qui sont persécutés, des chrétiens qui sont pauvres, ça va pas bien. Ils sont loin d'être dans l'évangile de prospérité. Ils ont des tribulations, ça va mal dans la période où ils sont. Peut-être c'est dans un temps de persécution contre les chrétiens. Puis ils se font persécuter aussi par des gens qui se disent juifs. Mais Dieu, il dit, c'est une synagogue de Satan. C'est pas des de mes disciples. Fait que ces disciples-là, tu as une position vraiment... comment je peux dire? Ils ne sont pas dans la complète victoire et au-dessus de toutes les choses dans leur vie. Voyez-vous? Dans notre vie, ça peut arriver qu'on n'est pas au-dessus de tout. Mais ça nous dit, en prenant les armes de Dieu, on va pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Mais si tu n'es pas encore rendu au point d'avoir tout surmonté, tu es encore en dessous de tes problèmes, tu es encore en train de les vivre, tes problèmes. C'est ce qu'eux autres sont en train de vivre. Puis là, Jésus est en train de le dire comme une prophétie qui n'est pas tout à fait agréable à entendre. D'habitude, on aime les prophéties. Le Seigneur est avec toi et tu t'en sortiras et tu n'auras plus de problèmes et tu vas vivre dans l'abondance puis de la richesse va te sortir par les oreilles. On entend des prophéties semblables aujourd'hui. C'est pas biblique. Oubliez ça. Mais je vais vous montrer que ça peut arriver que Dieu a un plan plus pire que ça pour certaines personnes. Dieu a permis au diable d'attaquer les chrétiens. Il dit, voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Quel avenir! Pourtant, on pense toujours, oh, avec Dieu, on est plus que vainqueur. Puis c'est vrai qu'on est plus que vainqueur. Spirituellement parlant, on est déjà vainqueur. Mais ça ne veut pas dire que toutes les choses qu'on vit sont dans la victoire. Dieu permet que Satan vienne mettre ces gens-là en prison pour qu'il y ait une tribulation de 10 jours. Une épreuve encore plus grande de ce qu'il est en train de vivre, de même par leur liberté de se promener, sont en prison. Puis Dieu permet au diable d'attaquer les chrétiens. Puis c'est dans quel but que les gens ont été attaqués? Pour être éprouvés. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour être mis à l'épreuve. Dieu se sert de ça pour voir ton cœur. Il voit quand tu es dans l'épreuve, comment tu réagis. Tu réagis-tu avec foi? Tu réagis-tu avec confiance? Tu réagis-tu avec conviction? Tu réagis-tu avec une idée de persévérer malgré tout ce que ça va mal? Moi, je persévère. Ça va mal, mais je persévère. Puis je sais que Dieu va m'en sortir parce qu'il donne aussi le moyen de s'en sortir. Mais l'épreuve est dans le but d'éprouver notre foi. C'est pas dans le but de détruire notre foi. Quand Satan a réclamé Pierre pour le cribler comme le froment, c'était dans le but de lui faire passer un mauvais quart d'heure. Jésus a prié, il n'a pas prié pour empêcher le diable de le faire, il a prié pour que Pierre garde la foi dans son épreuve. Puis il faut comprendre que les épreuves qu'on a, Dieu les voit, c'est des attaques du diable, Dieu les permet, c'est pas parce que Dieu nous a abandonnés. C'est parce que Dieu est en train d'éprouver notre cœur. Il est en train de voir comment est-ce qu'on va réagir, si on va continuer à confesser des versets de la Bible, puis s'accrocher à ses promesses, puis s'attendre à ce que Dieu nous accorde la délivrance. Puis là, après ça, on va avoir une belle victoire qu'on va être heureux d'avoir. Puis s'il n'a pas là, d'aboutissement, là, pareil comme le Shadrach, Meshach et Abednego, il arrive devant le roi de Nébuchadnezzar, puis l'autre est enragé. Il dit, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main, ô roi. Puis s'il ne nous délivre pas, ben on ne s'agenouillera pas devant ta statue quand même. Fait que on persévère dans notre difficulté, on garde la foi que Dieu est capable de nous en sortir, puis même s'il ne nous en sort pas, puis que c'était le plan de Dieu qu'on en meure de cette souffrance-là, mais on va garder la foi jusqu'à la fin, puis on ne lâchera pas. On ne laissera pas l'ennemi avoir le dessus sur nous, puis nous faire abandonner notre foi. Parce qu'on le sait qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en dehors que par la foi. Fait qu'on va rester dans les voies du Seigneur, malgré tout ce qu'on peut avoir à traverser. Amen. Bon, mais c'est ça qu'il faut arriver. Dites amen, puis si j'ai vécu des difficultés présentement, continuez à résister, puis à résister des mêmes souffrances que vous vivez présentement. Tous les frères dans le monde en vivent, puis je suis sûr même qu'il y en a qui en vivent des pires que qu'est-ce qu'on vit présentement. Oui. Ils se font scier, torturer, mis à mort, sont mis en prison, puis ainsi de suite. Nous, on ne vit pas encore ça. Je dis pas qu'on le vivra pas, je dis pas qu'on va le vivre, on le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, on marche dans la foi, puis on marche avec une idée de vouloir persévérer jusqu'à la fin de notre vie dans la foi. Peu importe ce qui arrive, que ce soit des maladies, que ce soit des tribulations physiques, des tribulations financières, des problèmes de toutes sortes, c'est le diable qui nous attaque. Mais on est plus que vainqueur en demeurant dans la foi. La seule chose qu'il faut regarder dans tout ça, c'est de ne pas donner d'accès au diable. Dans Éphésiens 4, 27, ça dit, donnez pas accès au diable. Faut que tu fasses attention à ce que le diable ne vienne pas te miner dans quelque chose que tu l'as laissé rentrer. Là, mettons, tu t'en vas consulter un astrologue, un médium, tu veux connaître l'avenir, tu sais que c'est des choses que Dieu ne veut pas, tu fais exprès puis te mettre les deux pieds dans les plats, là. C'est pas le diable qui t'a tenté, c'est toi qui as dit au diable, viens dans ma vie, j'aime ça quand ça va mal. C'est ça qui se passe quand tu fais ce qui est défendu. Faut arriver à dire, mais là, j'en donne pas d'accès, mais il y aura quand même pas le dessus, malgré des choses. Il va essayer quand même de nous faire trébucher, mais on garde la foi. Il faut être prudent puis demeurer ferme dans la foi. Parce que dans 1 Timothée 5, 15, ça nous dit, car quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Il y en a qui vont dire, oui, mais quand tu es chrétien, une fois sauvé, toujours sauvé, tu ne peux pas abandonner le Seigneur. Je regrette, c'est pas ça que la Bible dit. Ça, c'est un passage. Il y en a plein de passages qui en parlent. Puis c'est des prophéties même que dans la fin des temps, Plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons, des esprits séducteurs, puis agissent aujourd'hui, puis en séduisent plein de serviteurs et de servantes de Dieu présentement par des fausses doctrines. J'abacque pas là-dessus parce que ça va être dans le sujet de mes prochaines prédications. Il y en a qui se détournent pour suivre Satan, puis c'est ça qu'il faut pas. Parce qu'il y en a qui disent, « Ah, ben moi, là, je suis tanné, là. C'est depuis que je suis chrétien que ça va mal. » Là, ils sont tannés, là. Ils disent, « Ben moi, ça allait mieux quand j'étais pas chrétien. » Fait que ça, c'est un mensonge du diable. Fait qu'ils abandonnent le salut, puis ils abandonnent le chemin resserré, puis là, ils s'en vont dans le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. En Jésus, frères et sœurs, là, écoutez bien celle-là, nous sommes équipés de tout ce qui est nécessaire pour résister au diable. Il nous a donné une autorité supérieure à celle du diable. On a un poste, un rang d'autorité au-dessus de toutes les hiérarchies que j'ai nommées tantôt. On est assis présentement dans les lieux célestes, dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Puis là, Jésus a dit à ses disciples dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est à cause de la victoire de Christ qu'on a cette position-là. Demeurons fermes dans cette foi-là. Confessons que nous sommes dans cette foi-là. Puis résistons, persévérons, combattons. Prions, luttons, souffrons, nous aurons la victoire. Ça, c'est un beau chant qui nous parle de persévérance. Une fois que nous sommes des soldats avertis, enseignés, formés, équipés, apprenons à lutter efficacement contre cet ennemi. Amen. On va prier. Père Seigneur, c'est dans le nom de ton Fils Jésus que je te prie. Je te remercie pour les belles paroles qui sortent de ta parole, Seigneur. C'est des versets puissants, c'est des révélations qui nous donnent, qui nous équipent, qui nous donnent une vision claire de ce qui se passe dans le monde invisible puis de notre position en Jésus. Donne-nous de demeurer fermes dans la foi, de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas se laisser détourner par les tribulations puis les persécutions, par des souffrances, qu'on puisse garder la foi, puis on le sait que tu nous donnes d'être victorieux, puis que tu vas même nous donner une porte de sortie pour qu'on puisse supporter ces tentations. Fait qu'on remet tout entre tes mains, nos vies entre tes mains, puis merci de ce que tu fais dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.